Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, vous êtes bien sur Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com pour pouvoir nous suivre de partout en France. Vous êtes sur Culture Sport, c'est votre émission. Et donc, nous allons retrouver aujourd'hui Benjamin Didou, donc, qui occupe des fonctions dans le cyclisme dont il va nous parler. Je l'accueille tout d'abord Dédé. Dédé, bonjour.
Salut Didier, salut auditeur et bonjour à Benjamin d'avoir répondu à notre rendez-vous de ce soir.
Pour commencer, un mot de présentation par rapport à vous.
Ben, bonjour, je m'appelle Benjamin Didou, donc j'ai 24 ans et j'ai la particularité d'être organisateur d'une épreuve cycliste depuis 2019, une épreuve que j'ai créée durant mes études, que j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps.
Quelle course organisez-vous ?
J'organise donc depuis 2019 le Tour du 4B Charente, donc c'est une course cycliste en ligne qui a gravi les échelons d'année en année et qui est réservée à l'élite du cyclisme français. Et cette année, on a la particularité, l'épreuve d'être support d'une manche de Coupe de France nationale unie.
Avant de rentrer dans le fond de ce programme qui aura donc lieu dans quelques semaines, je voudrais revenir sur toi, Ben. Tu as débuté dans quel club? Ensuite, tu as pris cette initiative importante hein, pour du côté du Sud-Charente. Et comment ça t'est venu et comment tu as pu voilà, qui a eu l'idée? Comment tu t'es organisé pour rassembler autour de toi toute l'équipe que tu as aujourd'hui?
Bah déjà je suis un passionné de vélo depuis que je suis tout petit. J'ai suivi le Tour de France en camping-car avec mes grands-parents. On partait des fois pendant 2-3 semaines et on suivait les étapes. Et j'étais cycliste passionné. Je faisais du vélo en loisir. J'ai toujours eu l'envie de faire du cyclisme sur route en club. Et j'ai eu la chance de commencer en junior 1 au club du CO Couronnet. Donc j'ai fait mes 2 années de junior là-bas avec Gilles Cotinet, le président. Et ensuite, je me suis rapproché de chez moi, donc dans le sud de Charente. J'habite moi en Charente-Maritime à la frontière de la Charente. Et donc, j'ai rejoint la C4B là-bas et donc durant un stage hivernal à Calpe, en Espagne. J'ai discuté donc avec les membres du club et les dirigeants. Et je leur ai proposé et soumis l'idée de créer une course cycliste dans le cadre d'un projet d'école. Mais à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que ça soit une épreuve telle qu'elle est actuellement. Pour moi, c'était créer une course de clocher où on tournait autour d'un village. Et voilà, c'était toute l'idée de base.
Et pour en arriver donc à cette première édition du Tour Charente, il a bien fallu démarcher. Donc autour de toi, t'as certainement des copains de club. Je pense à Philippe qui est le président de C4B et puis toute son équipe avec Bernard. Là,
pour démarrer, effectivement, la première année, on était novice. Hein, clairement, j'avais jamais organisé d'épreuve de ma vie. J'avais jamais rien fait. Donc on partait d'une feuille blanche. Et du coup, j'ai organisé la première édition dans le cadre du DUT technique de commercialisation Angoulême. Et j'étais du coup avec un copain, on a organisé ça. Un copain s'appelait Clément Debien, et on a organisé du coup la première édition ensemble. Et lui avait la chance de connaître Alain Foué, donc l'organisateur du Tour Poitou-Charentes. Et notamment aussi Raphaël Nodon, qui nous ont bien aidés et bien ficelés, nous donner des conseils précieux pour organiser une épreuve. Donc on s'est appuyé donc sur la première année sur eux qui avaient l'expérience de l'organisation des épreuves en ligne, parce que la C4B n'avait jamais organisé d'épreuves en ligne auparavant. Donc la première année c'était comme ça. Et après en 2020, j'ai continué en licence 3 management du sport, et je me suis encore appuyé donc sur des copains de classe dans le cadre d'un autre projet où là on était 10 à travailler toute l'année pour un projet dessus. Donc là ça a permis de grandement développer l'épreuve. Malheureusement l'épreuve a été on va dire annulée une semaine avant pour des raisons de Covid. Oui. Mais ça a permis du coup en 2021 de passer l'épreuve en en élite nationale. Mmh. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais plus, on va dire, épaulé par le club, dans l'organisation. Même si dans les deux premières années, le club était présent, mais vu que c'était un projet d'école, on avait, on va dire, assez de main-d'œuvre, de personnel, de temps pour l'organiser. Mais oui, tout au long de l'année, on a Philippe Nadon, le président du club, qui travaille aussi activement sur la partie de l'organisation. Et on va dire que l'organisation s'articule surtout autour de 2-3 personnes, on va dire pendant plusieurs mois où on travaille un peu dans l'ombre, et après on demande aux bénévoles du club de s'investir, on va dire, dans les dernières semaines où là on a besoin un peu plus de main d'œuvre pour mettre en place et aller chercher des choses à gauche, à droite, où là c'est plus important d'avoir du monde, alors que, on va dire, dans les premières semaines c'est beaucoup d'administratif. Mais quand je repense à 2019, où là on a créé l'épreuve, on est parti une feuille blanche, on avait un budget de prévisionnel de 10 000 euros. Ouais. Donc le professeur, il nous prenait pour des fous. Ils nous ont dit aller chercher 10 000 euros. Alors tous les projets qui se faisaient, c'était des projets à 500 ou voire 1 000 euros grand maximum. Et nous, on a dit, notre projet, il fait 10 000 euros. Les profs, ils disent non, mais vous n'allez pas faire ça, vous rendez pas compte, vous allez mettre en péril l'école. Parce que si vous y arrivez pas, c'est nous qui allons devoir payer. Et au final, on avait notre idée en tête. On s'est battu, on a été démarcher des partenaires pendant les vacances scolaires. On partait le matin jusqu'au soir, on frappait toutes les portes de toutes les entreprises, qui étaient d'ailleurs bienveillantes quand on leur présentait le projet, et qui nous ont permis au final de récolter assez d'argent pour pouvoir organiser la première édition. C'est parti comme ça, et puis après on a réussi à fidéliser les partenaires, en trouver des nouveaux, en faisant grossir aussi les partenaires existants. Et voilà, quoi. Donc c'est depuis 2019 un long chemin qui est parcouru.
Est-ce que tu l'auras vendu pour ton projet ?
Aux partenaires ?
Oui.
On l'aura vendu, on va dire, au fond de nous. Enfin, les partenaires, ils adhéraient plus parce que c'était un projet d'école et que on était, oui, on va dire, ambitieux, et qu'ils voulaient qu'il y ait de la réussite dans ce projet-là qui était novateur sur le territoire. Mais on leur vendait également de la visibilité sur des affiches, sur des maillots protocolaires. On faisait comme les maillots du Tour de France. On mettait un maillot jaune, un maillot à pois pour le meilleur grimpeur, des maillots verts, des maillots blancs. Et c'est comme ça qu'on a débuté, hein, en leur vendant des encarts publicitaires.
Aujourd'hui, c'est combien de sponsors que vous avez à peu près ?
Maintenant, depuis 2000, enfin, à partir de cette année, on a restructuré. Avant, on avait des partenaires qui étaient spécifiquement pour le club de la C4B, et on allait en démarcher des nouveaux pour pallier à l'organisation de l'épreuve. Et depuis cette année, on a tout restructuré avec une nouvelle stratégie où on s'est dit que c'est plus important de faire vivre nos partenaires tout au long de l'année. Et donc le tour des 4B, c'est parti d'un packaging général qui englobe la voiture du club, les maillots, l'ensemble des courses que l'on organise, et les différents supports publicitaires, le site web, etc.
Donc oui, il y a beaucoup de visibilité là-dedans.
Oui, il y a beaucoup de visibilité. Et on a appuyé cette visibilité en 2021, c'était encore la période du Covid, où les épreuves étaient à huis clos, et nous on a su se démarquer à ce moment-là en étant une des seules courses amateurs à retransmettre en direct la course dans son intégralité en vidéo sur les réseaux sociaux. C'était en direct sur Direct Vélo, sur notre page Facebook, sur le YouTube de Direct Vélo également, et avec des caméramans professionnels, une régie, qui nous ont permis en fait de gagner en notoriété, en visibilité, parce que pendant le Covid, les gens étaient chez eux, ne pouvaient pas sortir, et en fait, on leur a permis d'assister à un spectacle gratuit facilement sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur la télé. Et en 2021, c'était novateur, et ça a permis aussi de nous faire connaître. On On a eu la chance d'être invité à la présentation du Tour de France en 2020 et enfin, mes copains qui de base ne connaissaient pas le vélo, eux ont été contents de participer, on va dire, à cette fête-là. Mais pour en citer quelques-uns, il y avait Adrien Roy qui était aussi dans le club de la C4B et qui était à l'école avec moi dans la même classe et du coup qui a fait partie aussi de cette aventure-là. Mais malheureusement, l'épreuve n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais il y a eu pas mal d'avantages d'avoir pu faire développer cette épreuve à ce moment-là. Parce que même si l'épreuve n'a pas eu lieu en 2020, s'est développée sur beaucoup de points de vue, que ce soit au niveau des infrastructures ou notamment au niveau des dossiers, on s'est structuré un petit peu mieux vu qu'on était un peu plus nombreux.
Les 4B, c'est Barbezieux, Beigne, Brossac et
Blanzac. Enfin, maintenant Coteau du Blanzacais, c'est une communauté de communes du sud de Charente.
Et donc la course, c'est une course de quelle catégorie?
En 2024, c'est une course catégorie élite nationale et qui sera support de la première manche de la Coupe de France des clubs N1. Et le tour des 4B, parce que le club support, c'est la C4B qui représente la communauté de communes. Mais chaque année, on s'autorise des petits écarts en traversant des communes qui ne font pas partie des 4B, mais pour nous, c'est aussi voir d'autres routes. Et pour les coureurs, c'est important. On peut le voir, par exemple, sur le Tour de France, qui ne fait pas exactement le Tour de la France, qui peut partir de différents pays. Nous, c'est dans toute autre mesure où on va bifurquer dans la commune limitrophe au 4B, mais pour moi, faut pas se cantonner à nos seules routes. Par contre, par exemple, on pourrait peut-être, je sais pas, à terme appeler la course le Tour du Sud Charente, mais pour l'instant, on tient à garder les 4B en appartenance au club.
Cette année, la compétition, elle a lieu quand?
Elle a lieu le dimanche 10 mars 2024 après-midi.
Donc, ça se court sur une journée?
Ça se court sur une journée. Jusqu'à présent, on avait une épreuve qui faisait à peu près 130 km. Et du fait qu'elle soit à manche de Coupe de France National 1, cette année, l'épreuve fera 177 km à parcourir. Et le départ sera donné à 12h30 à Barbezieux. Et une grande boucle donc sera effectuée pour revenir sur Barbezieux ensuite, après avoir traversé presque 25 communes donc du sud de Charente. Et on traverse aussi donc la communauté de communes de la CC Vallée-Côte-du-Rhône, Belvingue, Créteil-la-Madeleine, etc.
Quelle leçon as-tu tiré des trois éditions précédentes?
Qu'il faut toujours essayer d'avoir une longueur d'avance, parce qu'en quand on est organisateur, si on pense que tout est ok, que tout roule sur des roulettes, c'est là où en fait on peut être amené à avoir des déconvenues. Il faut toujours être, on va dire, sur le qui-vive pour essayer de réfléchir aux potentielles anomalies qui pourraient arriver pour que l'épreuve se déroule de la meilleure des façons. De toute façon, même si on sait que tout ne sera pas parfait, en tout cas, il faut essayer que ça le soit.
Pour nous résumer, donc, quelles sont les équipes qui seront en présence? Est-ce que tu as déjà un visuel sur les divers participants?
Justement, cette année, les autres années, on va dire, on se battait pour essayer de recruter des équipes qui viennent participer à notre épreuve, qui pouvaient être en concurrence avec d'autres courses du calendrier français. Mais cette année, on est en manche de Coupe de France National 1. Les équipes de National 1 donc sont obligées de participer à notre épreuve pour pouvoir marquer des points au classement général de la Coupe de France.
D'accord.
Et ce classement général permet en fait de maintenir une équipe en National 1 ou en National 2 si elle n'atteint pas le quota minimum de points pour rester au sein de la National 1. En fait, c'est comme la Ligue 1. Actuellement, là, c'est toutes les équipes de la première division vont participer à notre épreuve. Et des wildcards peuvent être attribués à d'autres équipes, mais cette année, on a la chance de ne pas se soucier des équipes qui vont participer parce que toutes les équipes de National 1 vont participer à l'épreuve du Tour des Cadets.
Ouais, elles sont inscrites de facto donc au calendrier, c'est ça?
Exactement.
Est-ce que l'équipe Océane Top 16 est susceptible de participer à ta compétition?
Bah, actuellement, l'Océane Top 16 est rétrogradé en National 2. Mais je sais qu'il y a une procédure de l'équipe, je crois, a fait appel pour pouvoir rester en National 1. Et pour l'instant, c'est des dossiers juridiques, administratifs. Donc, je ne connais pas les tenants et les aboutissants pour vous dire si l'équipe va participer ou non du coup à l'épreuve.
En gros, il y aura combien de partants?
Environ 20 équipes vont participer, oui.
20 équipes, ouais, d'accord.
Okay. Oui.
Okay. Donc, ce qui fait combien? Ça fait
150 partants, oui.
En termes d'organisation, ça doit représenter beaucoup, non?
Bah, le jour J, oui, énormément. Déjà, je remercie l'ensemble des bénévoles parce que c'est des bénévoles qui sont présents sur les différents carrefours. Et quand on dit course en ligne, c'est-à-dire qu'on traverse énormément de communes. Il y a beaucoup d'intersections. Et les communes en fait nous fournit des bénévoles et ça c'est super parce que nous on pourrait pas trouver autant de bénévoles parce qu'on a besoin quand même de 300 bénévoles, plus de 300 bénévoles le jour J.
Ouais, c'est vrai que sans eux, rien de possible.
Voilà, sans eux, il y a rien de possible en fait. Ils nous fournissent du coup l'autorisation de passage dans leur commune, mais ils nous fournissent surtout des signaleurs. S'ils ont besoin, on peut leur fournir nous du matériel à disposition pour leurs signaleurs, mais en fait ils s'occupent de tout. Nous on leur donne les horaires de passage et ils s'occupent de la mise en place du signaleur. Ils donnent ses missions et puis non, c'est quelque chose qui est super important pour nous parce que ok, on a des motosécurités qui viennent, que c'est leur boulot de sécuriser la course, de bloquer les carrefours. Mais rien ne remplace un signaleur à poste fixe.
On est, par les temps qui courent, sur une crise concernant le bénévolat. Apparemment, tu as échappé à la crise.
Bah, nous, jusqu'à présent, on va dire, on entretient de bonnes relations avec les communes et les signaleurs. Et d'année en année, on va dire, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Et on a toujours eu assez de bénévoles pour pallier donc à tous les carrefours.
On va essayer d'élargir un petit peu le débat. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution du cyclisme et notamment pour le Tour de France?
Bah, je trouve que il y a certaines années, le Tour de France était pour certains devenu, on va dire, moins attrayant. Quand on pense à l'époque de la team Sky par exemple, où il y avait un rouleau compresseur et on savait en fait à la fin qui c'est qui allait gagner. Aujourd'hui, certaines équipes, certains coureurs sont au-dessus du lot, mais on va dire qu'il y a moins une domination d'une seule équipe ou d'une seule personne. Il y a des très beaux duels actuellement entre les plus grands champions qui composent le peloton, et pour les personnes qui suivent de près ou de loin le cyclisme, ça le rend beaucoup plus attrayant et très intéressant à suivre. Et les courses sont indécises. On attend toujours un vainqueur français du Tour de France, mais au-delà des chauvins, le spectacle qui est proposé et de haute voltige.
Il y a quand même, tu parlais d'hégémonie en fait d'une équipe. Faut dire que l'équipe Jumbo quand même a trusté les victoires la saison passée.
Oui, l'équipe Jumbo a peut-être gagné les trois grands tours avec trois coureurs différents, mais sur les classiques, sur les différentes courses, la Jumbo n'a pas toujours été là. La Jumbo a surtout gagné donc les trois grands tours, mais il y a pas avec un coureur comme Wout van Aert par exemple qui a moins gagné que les autres années. Donc ça montre bien qu'en fait ils ont ciblé leurs objectifs avec des coureurs très compétents. Et cette année, Primoz Roglic qui a quitté donc la Jumbo pour aller à la Bora-Hansgrohe, Pogacar à l'UAE. Les, on va dire, les cartes sont un peu redistribuées. Et justement, la Jumbo disait que leur plus gros adversaire, ça sera peut-être Primoz Roglic.
Qu'est-ce que tu penses de la performance du coureur américain, donc dans le nom m'échappe, de la Jumbo-Visma?
Bah, Sepkus.
Voilà, Sepkus. Merci.
Sepkus. Là, il a éclaté aux yeux de tout le monde. Mais pour les suiveurs, depuis nombreuses années, depuis quelques années, il est le lieutenant de Jonas Vingegaard, de Primoz Roglic. Et quand ils ont à chacun gagné leur grand tour, à chaque fois, Sepkus était de la partie. À chaque fois, Sepkus était là pour tirer des bouts dans la montagne, dans l'école. Et leur victoire, à chaque fois, était liée. Et sans Sepkus, ils auraient peut-être pas gagné les grands tours qu'ils ont gagnés. Et donc là, pour moi, c'est une juste récompense qu'ils l'ont laissé gagner un grand tour.
Est-ce que tu penses que ce garçon-là aurait sa place de leader dans n'importe quelle autre équipe continentale?
Oh, mais largement. On pourrait même être leader dans une équipe pour le tour. Hein. Là, il y a pas de débat. Je pense que n'importe quelle équipe, même française, serait contente d'avoir Sepkus dans son rang.
Sur le champion de France, le champion d'Europe, Christophe Laborde, belle saison aussi.
Oui, très belle saison depuis son passage de chez Cofidis à Jumbo-Visma. On voit qu'il a passé un cap. C'est quelqu'un qui est, en plus d'être un très bon sprinter, devient complet, passe bien les bosses, et qui c'est quelqu'un qui se met au service du collectif, et le collectif le rend bien. Donc non, c'est un très bon coureur français.
Est-ce que tout à l'heure tu évoquais donc d'une manière assez générale le fait que il n'y a pas de coureur français à l'horizon qui pourrait s'imposer sur la grande boucle. Est-ce que tu peux développer là-dessus?
C'est vrai que quand on regarde les coureurs français, le peloton français est très compétitif. Malheureusement, pour gagner le Tour de France, il faut plus qu'être compétitif, il faut être presque hors norme. Et les coureurs français qui sont hors norme, il y a eu un Julien Alaphilippe qui, il y a quelques années, aurait peut-être pu gagner le Tour de France. Un Thomas Vauclair qui en était pas loin non plus. Mais eux, ça, on va dire, ça s'est fait un peu sur des faits de course qu'ils ont mis au devant de la scène et à porter le maillot jaune, en plus d'avoir des bonnes qualités. Mais il manque encore un cran pour pouvoir gagner le Tour de France. On a David Godu, on a eu Romain Bardet, Thibaut Pinot qui en était pas loin, mais c'était, on va dire, des très bons coureurs. Mais pour gagner le Tour de France, il faut des circonstances de course favorables et en plus être hors norme.
Qu'est-ce que tu penses du fait que les coureurs, les top 10 choisissent aujourd'hui leurs épreuves et se canalisent sur une seule et grande manifestation pour eux dans l'année?
Tu veux dire que les coureurs français choisissent plutôt de faire un top 10 Tour de France que de ouais, c'est que le Tour de France, c'est quand même la plus grande course au monde. Donc faire top 10, c'est quand même parlant, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a un coureur qui ne se donne pas les moyens de tout donner sur un Tour de France, il ne veut pas savoir en fait quelles sont ses potentielles chances de victoire. Mais puis un coureur de grand tour, de classement général, c'est pas un coureur forcément de classique ou de sprint. Donc c'est ses capacités, ses facultés qui lui permettent de jouer les courses par étapes, et notamment le Tour de France. Donc non, je pars du principe que qui ne tente à rien n'a rien. Et s'il y a seulement les plus grands champions qui se battraient pour le classement général, on va dire qu'il n'y aurait plus forcément d'intérêt, parce qu'il y aurait les deux, trois meilleurs, et puis ensuite il y aurait le reste du peloton.
Je m'accorde à penser que Tadej Pogacar est quand même celui qui, aux yeux des aficionados, est quand même celui qui a la palette la plus large, parce qu'il peut s'imposer aussi bien sur du Liège-Bastogne-Liège que sur du Milan-San Remo, ce qui n'est pas forcément le cas de Roglic et de Pogacar. Et de Vingegaard, pardon.
Oui, Tadej Pogacar, C'est un coureur de grand tour, mais c'est aussi un coureur au complet qui on peut le voir, il joue sur son vélo. Pour lui, le vélo, c'est un jeu. Il a toujours le sourire et il sera toujours le premier à sprinter pour une place d'honneur dans un groupe. Et en plus, il a des bonnes capacités au sprint. Mais Roglic, pour moi, Roglic aussi est capable de très bien sprinter. Jonas Vingegaard, par ses capacités physiques, est également capable de bien sprinter. Vingegaard se donne peut-être un peu moins les moyens de gagner sur d'autres terrains que sur les grands tours. Et comme Roglic, par exemple, qui a participé à très peu de courses cette année, mais les seules courses qu'il a participé, de mémoire, il les a gagnées ou presque toutes. Donc non, c'est des choix de carrière et chaque coureur est différent. Mais pour le spectacle, c'est vrai que Tadej Pogacar est quelqu'un qui a toujours envie d'attaquer. Il prend toujours la poudre des trompettes pour partir et
ouais, c'est un attaquant né quoi.
Ouais, voilà, c'est un attaquant. Parfois, ça peut se retourner contre lui, mais parfois, ça peut marcher.
Benjamin, on va arriver au terme de notre entretien. Merci d'avoir fait cette large digression hors ton domaine de compétence, pardon. Est-ce que tu voudrais revenir sur quelque chose qui n'a pas été dit ou évoqué dans l'entretien qu'on a eu?
Non, pas forcément, mais pour tous ceux qui sont intéressés pour suivre l'événement, donc la 4e édition du Tour des 4 Bessus de Charente, à savoir que le site internet, c'est www.ac4b.fr et dessus donc il y a toute l'actualité du club, les résultats, les licenciés, mais également donc le Tour des 4B qui a lieu donc le 10 mars prochain. Toutes les informations donc ils seront mis dessus. Il y a actuellement donc l'affiche, le parcours qui est dévoilé dessus, le profil de l'épreuve et donc les coordonnées si besoin pour contacter. Mais merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui et donc pour cette belle émission.
C'est avec plaisir en tout cas. Un mot encore, le profil du parcours, il sera comment? C'est un parcours vallonné, accidenté?
Oui, le Tour des 4B est réputé pour être vallonné justement. On peut décomposer le parcours en trois tiers. Le premier tiers de l'épreuve sera relativement plat. Dans la vallée du Nez, et puis ensuite au milieu de l'épreuve, donc là les gros morceaux vont arriver où on va aller du côté de Montboyer, Saint-Laurent-des-Combes, Brossac, ça sera le plus dur, et puis ensuite il y aura un circuit final de 30 km autour de Barbezieux avec deux boucles et donc trois passages en tout sur la ligne d'arrivée à Barbezieux, une arrivée comme en 2019 sur l'avenue Nelson Mandela au sommet de la côte.
À ton avis, le vainqueur, il va se situer dans quelle catégorie? Grimpeur, sprinter, puncher?
Ouais, ça sera un puncher qui va gagner. Je pense que ça va arriver en petit comité. Les difficultés du parcours vont faire une sélection naturelle.
Ouais, il y aura pas d'arrivée au sprint. Ou en tout cas, sur un petit groupe.
Cette année, en tant que coupe, vu que ça sera Coupe de France, le niveau sera peut-être plus homogène, donc peut-être il y a plus de chances que les années passées, mais ça sera pas une arrivée totalement massive. Pour moi, une arrivée à plus de 100 coureurs, je n'y crois pas trop.
Parfait, Benjamin, pardon. On est en période de vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton événement?
Mais que l'épreuve se déroule de la meilleure des façons, sous un grand soleil avec beaucoup de spectateurs pour venir encourager les différents coureurs.
Donc on va adresser un clin d'œil à la météo pour qu'elle soit clémente pour cette belle compétition.
Exactement.
Parfait, Benjamin. Merci d'avoir accepté rapidement notre invitation. Donc tu as été très réactif et on te sait gré de tout ça. Donc on te souhaite le meilleur, bien entendu. Pour nos auditeurs, on se retrouve bientôt. Donc on se retrouve lundi à 19h. À partir de 19h15, pardon. Et donc, encore une fois, merci Sébastien d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, au revoir.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous. Ce soir, un petit flash résultat avec du football, du basket, du rugby, notamment les sports collectifs. On va commencer par le football et la Régionale 2, puisque la CFC ne jouait pas ce week-end et que la réserve de la CFC était engagée en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. On parlera de cette coupe plus tard quand il y aura moins de clubs charentais en lice. On va bien sûr parler de des Régionales 2 avec quelques matchs en retard qui avaient lieu, avec notamment la défaite de Leroy 3-2. Contre Saint-Émilion. En Régional 3, il y avait aussi quelques rencontres avec la défaite malheureusement de Pimoyen 4-1 contre Nieul l'Espoir. La défaite de Soyo également 2-0 contre 3 Vallées. En D1, quelques matchs avaient lieu avec le match nul entre Moutier et Brie 1 partout, la victoire de Ruel 4-1 contre la réserve de Merpin. La victoire de Cognac, première victoire pour la réserve de Cognac contre la réserve de l'Alliance 3B, victoire de Cognac 2-0. Et enfin, les SAC s'imposent 5-2 contre les Portugais du Gond. En D2, quelques résultats également en poule A, avec la victoire de Champigny 6-1 contre Brigueuil, la victoire de Chasseneuil 4-3 contre Aigre, et la victoire de La Roche-Rivière B a roulé, la victoire 6-2 de La Roche-Rivière. Enfin, en poule B, 4 scores également avec la victoire de Montmoreau contre Sud-Charente 2-0, la victoire de Nersac à Bélair 1-0, le match nul entre Clé et Saint-Brice 3 partout, et enfin la victoire de Saint-Aix B contre Jarnac B, victoire 3-0 des Arédiens. En rugby, petit rappel du score du SA15 qui s'est incliné malheureusement du côté de Montauban. Un match que nous avons débriefé dans le SA15 Magatitude avec Fred il y a quelques minutes. En National 2, Cognac s'incline d'un seul point. Défaite de Cognac, c'est 18-17 du côté d'Anglette. Malheureusement, pour Cognac, il y avait 10 partout à la mi-temps et la décision s'est faite en seconde période. Enfin, malheureusement, en Fédéralune, Barbezieux est largement défait à Tyros, défaite des Barbezieliens, 41-10 dans le sud-ouest. Enfin, un dernier résultat de sport collectif avec le Cognac Basket Avenir qui jouait à Tours. Malheureusement, grosse défaite pour le Cognac Basket Avenir, défaite 102-70 pour Cognac qui est en difficulté en National 3. Le flash résultat reviendra plus largement la semaine prochaine avec le retour des championnats de National 2 régionaux départementaux. Bonne soirée, au revoir.